Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berter, réalisée par Eliane Girard et David Le Prince et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Tiffany Battistel. La gourmandise ce matin, c'est le trait de crayon du premier ministre de la culture français, André Malraux. L'auteur de La Condition humaine avait l'habitude d'offrir à sa femme et à ses proches des petits croquis drôlatiques et fantasques, représentant d'étranges créatures, parfois accompagnées de légendes poétiques. Dans ce bestiaire singulier, on découvre ainsi le poisson-lapin, le dieu des chauves-souris, le roi des royaumes imaginaires, le Moyen-Âge atomique, le fantôme de Napoléon III qui ressemble à un dragon, et un piège étonné, sosie parfait d'un crabe recouvert de compas. Malraux surnommait certains de ses personnages des diables avec un Y. Dans les inventions de l'homme d'État, on trouve le diable de la surprise causée par la découverte de soi-même, le diable de la méditation métaphysique, le diable du pittoresque inconscient et enfin le diable politique des situations compliquées, une figure assez contemporaine semblable à une toile d'araignée emmêlée dans ses propres fils. Lien à découvrir sur le site de l'émission. Notre apothicaire de l'âme grandit à Villeneuve-d'Ascq, commune accessible par la ligne 1 du métro lillois. Petite, elle pleure chaque fois qu'un camarade d'école se fait gronder. Ses parents sont convoqués pour excès d'empathie. La bienveillante suit des cours de chant et à 11 ans, a l'opportunité de faire carrière dans la chanson. Sa lucidité lui fait changer de destin. Elle prend aussi des cours de théâtre et débute une carrière au cinéma à 15 ans sous la direction d'Anneke. Elle étudie les lettres et le cinéma à Paris, envisage un temps de devenir ostéopathe, puis arrête ses études pour se consacrer entièrement au théâtre et au cinéma. Claude Miller, Bertrand Tavernier, Robert Guédiguian, Pascal Ferrand, François Ozon, Emmanuel Mouret, Valérie Donzelli, Christophe Honoré ou encore Quentin Dupieux sont quelques-uns des réalisateurs qui la mettent en scène. La gracieuse compte déjà à son actif plus de films que d'années de vie. Bonjour Anaïs de Moustier.
Bonjour.
Quel est votre rapport, vous savez ce que je vais dire, à la mélancolie?
Quel est mon rapport? Eh ben, je suis très mélancolique. Je crois que c'est surprenant parce que je dégage quelque chose de plutôt léger. Souvent, les gens me disent que je suis souriante, que j'ai l'air de vraiment être extrêmement légère tout le temps. Et en fait, j'ai un fond vraiment extrêmement mélancolique, donc je ne sais pas comment je le cache, mais moi, j'en ai conscience.
Depuis toujours?
Oui.
Et s'est-il aggravé avec le temps?
Oui.
Ah oui.
Oui, oui, oui.
Vous le vivez plutôt seul alors?
Oui. Enfin, mes très proches, les gens qui sont très proches de moi la connaissent, mais sinon, oui, c'est une chose que je vis assez seule. Et déjà, quand j'étais enfant, je me rappelle très bien, c'était des moments dans lesquels je me réfugiais. Souvent, j'ai joué au piano. J'étais très, très peu seule quand j'étais enfant. J'étais tout le temps avec des gens, tout le temps entourée. J'étais vraiment propulsée vers les autres en permanence. Mais ces moments de mélancolie, quand ils arrivaient, je les vivais vraiment seule. Et souvent, je jouais du piano. Je jouais pas très bien. J'ai jamais été pianiste vraiment. Mais déjà, je pense que je m'étais dit, l'art ou la création ou une activité artistique, ça peut peut-être faire du bien.
Donc vous avez, Anaïs de Moustier, une mélancolie accompagnée au piano la plupart du temps?
Bah plus maintenant, parce que je ne joue plus, mais en tout cas, je pense que oui, il y a de la musique qui arrive à ce moment-là, souvent.
Et vous arrive-t-il de l'être en public?
Non.
C'est vrai?
Très peu. À part peut-être pour le besoin d'un tournage, dans le cadre d'un rôle, ou qui me permet d'aller dans ces terrains-là. Je crois que c'est vraiment une chose que je garde très secrète. Enfin, qui ne jaillit pas en public, en fait. Tout simplement.
C'est amusant parce qu'on va parler de la solitude dans vos remèdes. La solitude apparaît dans une des citations de Duras. Et j'annonce le sommaire. Alors, aux auditeurs, vous allez convoquer dans quelques instants Anaïs de Moustier, entre autres, du cinéma, des bronzés, du travail, la chanteuse angolaise Pongo, de la psychanalyse, du chant, la nature, des enfants, François Roustan, Marguerite Duras, Barbara et Egon Schiele, juste après le morceau « Ah bah d'accord » de Junior.
Ah bah d'accord.
L'emballement psychosomatique, bouffé délirant de chaleur, affiché au relevé du compteur, l'extrasystème mélancolique. Entre nous deux, entre nous deux, entre nous ça va faire un malheur. Ah bah d'accord.
Remède à la mélancolie sur France Inter. Nous sommes avec Anaïs de Moustier et nous venons chacune de remuer très pudiquement pendant cette chanson, timidement et sans se regarder. Et tout de suite, le sérum filmique.
Hé hey Bernard, c'est quoi cette horreur?
Ah oui, là il y a un petit problème. J'ai l'impression que vous n'avez pas dû lire le règlement. Je vous explique, nous sommes une quinzaine de copropriétaires à se partager cet appartement, vous voyez. La décoration en général est supposée plaire à tout le monde. Par contre ici, là, ce petit crochet, c'est l'emplacement de la touche personnelle. Et personnel, vous comprenez? Alors, je vois pas pourquoi je devrais supporter cette croûte.
1979, Les Bronzés font du ski, réalisé par Patrice Lecomte, écrit et interprété par la troupe du Splendide. C'est un film que vous regardiez souvent en famille, Anaïs de Moustier.
Oui, mais tous les Français, je crois, étaient confrontés au film vers Noël, après Miss France. Enfin, ouais, je crois que je le voyais tous les ans.
Vous avez deux scènes de prédilection.
Oui.
Dont celle qu'on vient d'entendre.
Celle qu'on vient d'entendre, voilà.
Et celle où Jean-Claude Duss, donc interprété par Michel Blanc, rencontre le prof de ski.
Qui n'est pas Anne Laurencin comme prévu. Oui, oui.
C'est quand la dernière fois que vous l'avez revu?
Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, mais en fait, c'est très bizarre. C'est comme si la musique des répliques revenait souvent dans ma tête. Et vraiment, il y a plein de moments où j'entends ça, quoi. Bernard, c'est quoi cette horreur? Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. C'est vraiment fabuleux. Ah oui, nous sommes une quinzaine de copropriétaires et ça revient. Et Anne Laurencin tout le temps. Monsieur Duss, vous aviez pris rendez-vous avec ma collègue numéro 12, Anne Laurencin. Elle ne peut pas venir, elle est souffrante. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient et ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que le remède à la mélancolie principale, c'est quand même le rire. Enfin, pour moi, c'est la porte de sortie parfaite.
Je vous appuie. Vous avez découvert un certain cinéma grâce à votre frère Stéphane de Moustier, qui d'ailleurs vous fait jouer dans son prochain film, La fille au bracelet.
Oui, c'est lui qui m'a montré des films. Je crois, on avait 10 ans d'écart, il avait 10 ans de plus que moi, et il avait senti que j'avais un goût, en tout cas une attirance pour le jeu, pour la fiction, et donc c'est vrai qu'il s'est chargé de me montrer des films. Beaucoup de films avec des adolescentes. Et en fait, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis identifiée à Charlotte Gainsbourg, notamment dans La Petite Voleuse et dans Les Frontées, à Sandrine Bonner dans À nos amours. Et vraiment, je me souviens d'un vrai déclic un jour. J'avais envie d'entrer dans la télé et de faire la même chose. Quoi. Je me disais, ça a l'air très agréable. Et je sentais qu'elle s'exprimait et que c'était très agréable, en fait.
Elle s'exprime pourtant à travers des lignes écrites par d'autres.
Ouais, mais je sentais qu'il y avait une jubilation de ça, de la fiction en fait, du
jeu.
Du jeu.
Bah, d'ailleurs, Anaïs de Moustier, dans vos remèdes, vous avez choisi le travail comme religion, donc le cinéma évidemment, et vous dites « les personnages que je joue comme une source intarissable d'évasion ».
Oui, c'est vrai que je crois que vraiment, c'est une chose que je pense que j'étais un peu dans le déni avant avec cette chose-là, et je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait, il y a quand même une dimension de fuite dans le métier d'acteur. On nous dit tout le temps, mais tu enchaînes les tournages, comment tu fais et tout. Et c'est vrai que on échappe au quotidien, on échappe à la routine, on échappe à la vie réelle. On est vraiment en dehors du monde quand on tourne un film. Et moi, je sais que enfin, à toutes les échelles, quoi. C'est-à-dire le temps de la prise, le vertige du jeu, le temps de la prise, c'est un moment de qui ressemble à un. Je pense, je ne me suis jamais droguée, mais je pense que quand on se drogue, c'est un peu le même genre de chose. Il y a vraiment quelque chose de trippant. Et ça, c'est une chose à laquelle je reviens régulièrement par désir d'évasion. Et puis après, le temps d'un tournage, c'est vraiment un moment à part et où on décroche avec absolument tout, quoi.
Vous n'avez pas un peu le bourdon, Anaïs de Moustier, à la fin des tournages ?
Non, pas du tout. Souvent, c'est vraiment un moment. Moi, j'aime le cinéma justement parce que ça ne dure pas trop longtemps. Et je sais que, par exemple, au théâtre, parfois, je souffre de la longue durée des représentations. Et donc, le cinéma, j'ai l'impression que c'est toujours le format idéal, c'est-à-dire le moment où ça y est, j'ai bien profité des gens, du lieu où on est. Et je suis assez contente que ça se termine souvent.
Dans une interview en septembre dernier, vous dites, Anaïs de Moustier, vous parlez de ce syndrome de fuite que vous venez d'évoquer, et vous dites, quand je cesse de tourner, je veux recommencer, la réalité m'ennuie.
Oui.
Vous avez toujours fui la réalité ?
Non, je crois pas. Est-ce que j'ai toujours fui ? Non, mais c'est vrai que j'ai toujours, peut-être, en tout cas quand j'étais enfant, eu une attirance, une curiosité, un désir vers ce qui était de la fiction. C'est vrai. Je sais que tous les chocs que j'ai eus, c'était des moments où j'étais spectatrice et où je me disais, oh, j'aimerais participer. Je me souviens même d'une pièce de théâtre un peu pourrie que j'avais vue grâce à mon frère qui m'avait emmenée à Paris voir une pièce. Et je me disais, mais ça a l'air vraiment génial, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais être sur ce plateau ? Donc je pense que c'est une envie d'ailleurs qui fait que je suis très heureuse quand je ne tourne pas. Il y a plein de choses dans la vie qui me remplissent, hein, mais qu'il y a toujours cette attirance vers l'ailleurs du jeu.
Vous dites aussi que parfois, jouer des personnages, ça vous révèle des aspects de votre personnalité que vous n'aviez pas exploré de vous-même. Vous avez une idée en tête, par exemple, un rôle qui vous a révélé quelque chose sur vous ?
Pour parler là du film de mon frère, justement, La fille au bracelet, je me suis rendu compte que c'est un rôle très étrange parce que je pense que personne n'aurait pu penser à moi pour ce rôle-là. C'est vraiment parce que c'est mon frère, je pense, qui s'est dit elle peut le jouer. Et la fille, elle est procureure, enfin, elle est l'avocat général. C'est un personnage assez dur, un peu rigide. Et on sent que c'est une fille qui est très scolaire, qui a dû faire vraiment ses études sérieusement et qui a envie de bien faire, qui est très volontaire. Ça, je pense que c'est un aspect que je peux avoir, un côté bon élève et un plaisir que je n'ai pas pu exploiter à cause de mon travail, un plaisir des études, un plaisir d'apprendre, même d'apprendre des choses par cœur. Enfin, vraiment, j'adorais l'école et je sais que j'avais une soif d'apprendre qui n'est pas comblée par mon métier, là, pour le coup.
Il paraît que vous vous êtes réinscrite en philo, non ?
Non, mais j'ai raté l'inscription. Oh, à un moment, j'ai voulu, j'ai pas coché la bonne case, genre L2 ou L3, enfin un truc débile. Et il fallait attendre l'année d'après, non. Je voulais, oui, refaire de la philo.
On va en parler un petit peu, ou alors par une autre entrée, mais comme autre système de pensée, Anaïs de Moustier, en dehors du travail, vous indiquez la psychanalyse. Alors dans un article du Monde, mais qui date de 2017, on apprend que vous voyez une psy lacanienne peu bavarde.
Oui.
Est-ce toujours le cas ?
Du tout. Non, ça s'est terminé. Mais ça c'est quand même assez passionnant, cette enquête. Vers soi, vers sa vérité. Bon, voilà. Moi, j'ai pas du tout été élevée là-dedans. J'ai vraiment absolument pas grandi dans une famille où on parlait de la psychanalyse. Je suis le seul membre de ma famille, alors qu'on est quatre enfants, qui fait une analyse, je crois. Enfin, j'en suis sûre même. Et je crois que c'est vraiment une chose qui me plaît, mais plus comme une enquête, comme une sorte d'enquête, une sorte d'aventure que je trouve vraiment passionnante. Et ça passe par différentes formes. Après, moi j'ai compris que pour moi, le corps était l'élément principal. Enfin, c'était un endroit qui me permettait d'apprendre des choses sur moi et qui me révélait énormément de choses, justement par rapport à la mélancolie, par rapport à... Souvent, c'est par le corps que ça passe en premier chez moi. Donc c'est un indicateur de comment je vais, de mon humeur.
Mais on va en parler du corps avec François Roustan, que vous avez choisi pour l'émission, Analyse de Moustier, mais il y a quelque chose qui m'a frappée. Alors bon, Jean-Paul Rouve, quand il est venu dans l'émission, il nous a dit que c'était comme la DGSE ici, parce qu'on sait tout.
Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être chez le psy, c'est vrai. C'est vraiment extrêmement dévoilant comme émission.
Mais j'ai vu qu'en 2014, pardon, une amie vous avait conseillé un psy qui vous avait trouvé très en mouvement, et c'était exactement ce que vous ressentiez. Est-ce que vous vous sentez toujours très en mouvement?
Ben, un peu moins, je pense. Un peu moins agité.
Et c'est une bonne chose?
Oui, carrément. Oui, oui, parce que je pense que ça va avec une forme de maturité que je suis en train d'atteindre. Et je pense que l'agitation n'a pas que des vertus.
Ce soir, c'est une chanson d'automne. Dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il?
Avec Benjamin Biolay, vous avez repris Anaïs de Moustier, Que reste-t-il de nos amours, de Trenet aux Folies Bergères en 2015. On a déniché cette archive pour illustrer la première des activités qui vous grisent, le chant. Alors racontez-nous ce qui s'est passé lorsque vous aviez 11 ans, parce que c'est assez amusant.
Oui, cette histoire de... Alors bah oui, j'avais été repérée lors d'une émission. Mon cousin travaillait dans une émission sur la chaîne Yapi Yap. Non, l'émission s'appelait Yapi Yap sur la chaîne Canal Jimmy.
Je la connais.
Ouais. Voilà. Et donc il me dit, je suis sélectionneur de cette émission. Et il savait que j'adorais chanter, donc je me suis retrouvée à faire cette émission. J'avais chanté S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. J'étais extrêmement maquillée, je me rappelle que je me reconnais pas sur cette image, c'est ridicule. Et à la fin, des producteurs de musique m'ont interpellée et m'ont dit, on va faire un disque et tout ça. Et donc j'ai dit super, et là j'ai enregistré une chanson qui s'appelait Tout le monde dit I love you, qui est catastrophique vraiment, et vraiment j'ai des amis qui s'en moquent encore, et voilà, et donc j'ai fait cet enregistrement très sérieusement, en faisant exactement comme on m'a dit de faire, et puis soudain j'ai eu un espèce de sursaut de panique, et j'ai dit à mes parents, en fait je veux pas faire le disque. Je ne veux pas, je veux tout arrêter. Donc ils étaient un peu embarrassés, mais ils m'ont suivi, heureusement, ils ont été adorables, ils ont appelé, ils ont dit, bah voilà, je veux plus. Ils se sont pris un savon par le type qui quand même a perdu son temps à cause de moi. Et quelques temps après, est arrivée Anneke, qui, je pense, ne m'aurait pas sélectionnée si j'avais déjà été chanteuse.
Donc, bravo.
C'était une chance.
Ouais, ouais, bravo. Vous continuez de chanter du chant lyrique, non?
Oui. Pas trop ces temps-ci, mais j'ai dû le faire là récemment parce que j'ai fait un film avec Jérôme Bonnel, il a voulu que je chante, c'était super. Et oui, bah là, pareil, c'est une sorte de trouvaille dans ma vie merveilleuse, parce qu'en fait, j'avais la voix tout le temps cassée, j'avais du mal, dès que j'allais dans un endroit en fumée, à l'époque on fumait dans les bars, je pouvais plus parler pendant 3 jours, donc j'avais été voir un monsieur qui m'avait dit qu'effectivement j'avais un problème aux cordes vocales et que pour solutionner ce problème, je pouvais prendre des cours de chant. Et donc j'ai pris des cours de chant un peu naïvement, un peu comme une thérapie, et puis j'ai découvert la joie du chant lyrique, qui est une chose vraiment... rocambolesque, enfin vraiment c'est extraordinaire quoi de chanter. C'est je trouve que le corps nous enseigne plein de choses, et là quand j'ai trouvé la voix, en fait quand j'ai découvert la force de la voix que j'avais, qui est très forte hein, par rapport à ma taille et ma corpulence, ça m'a renseigné sur une peut-être sur une force que je soupçonnais pas que j'avais, ou sur une puissance en tout cas, et ça c'est génial, c'est comme un trésor quoi, et je trouve que la voix c'est un endroit d'investigation génial. Et souvent, je fais attention aux voix des gens. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont dans les voix. Et voilà, et le chant et la chanson, c'est vraiment une des choses principales de ma vie.
Vous dites d'ailleurs, Anaïs de Moustier, que tous les êtres humains devraient chanter pour se sentir mieux, dans une interview pour Télérama.
Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en tout cas en France, ou voilà, dans la culture dans laquelle je vis et dans laquelle j'ai grandi, le corps est quand même vraiment très mis à part, très mis de côté. Et moi, je m'aperçois que c'est souvent par le corps que sont les réponses. Et je pense que moi, comme enfant, si j'ai voulu jouer la comédie, j'étais assez hyperactive. Je pense que c'est parce que finalement, mon corps me guidait, me disait, il faut s'exprimer, ça fait du bien. Parce que j'étais dans une famille où on s'exprimait pas forcément sur ses émotions et tout ça. Donc, le chanter, oui, enfin voilà, de manière générale, lâcher les élastiques et s'exprimer, quoi. Enfin, je pense que les 3/4 des gens sont constrictés, en fait.
Ouais, en Occident, c'est fort probable.
C'est triste.
Ouais. Anaïs de Moustier, vous avez aussi choisi comme remède la compagnie des enfants. Là, vous évoquiez l'enfance. Vous n'avez jamais rencontré d'enfants de mauvaise compagnie ? Oh si,
qui fume la pipe. Oh, bien sûr, ces sales bêtes. Non, non, mais oui, les enfants, comme une sorte de... Je sais pas, c'est... Non, mais moi, ça, ils me déconcertent, en fait, par... Déjà par leur poésie quasiment tout le temps, et puis par leur élan vital. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que ce sont les seuls êtres humains qui n'ont pas de mélancolie. Je pense que c'est pas bien de dire ça, parce que je pense qu'il doit y en avoir, mais en tout cas qui ont avant tout un goût, un appétit. Moi, je vois en fait la mélancolie, je la vois quand même comme un truc dans lequel on peut se vautrer un peu.
Et se complaire.
Une sorte de lit de peine où on se dit je vais y aller, ça va être trop bien. Et puis, un enfant ne fait pas ça, quoi. Un enfant, il préfère sauter. Enfin, il est dans l'instant.
Oui, dans l'instant. Dans c'est le présent, exactement ça. Ouais. On se retrouve dans quelques minutes, juste après un titre que vous n'avez pas choisi, Anaïs de Moustier, car c'est comme ça sur le service public, je vais me faire virer après cette phrase. Patrick Watson, Mélodie Noire.
Tell me where the wind is blowing, cause that's where the music's going. You are my big dark blue and I wanna swim around you. You are the sweetest melody I never sung. I feel like I know you but you're just a ghost to me. Sit beside your shadow so now it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. You're all my island of love, my remedy to rescue me. You're all the breeze of a song that carries me. You are the sweetest melody I've ever sung. Your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are my you are the breeze, the song that carries me. You are the sweetest melody I've ever sung.
Très joli morceau, Mélodie Noire de Patrick Watson. Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de la comédienne Anaïs de Moustier. Vous avez choisi de parler d'un livre paru en 2001, La fin de la plainte, de l'ancien jésuite et psychanalyste François Roustan, un psychanalyste formé par Jacques Lacan, qui rompt ensuite avec la pratique analytique et devient hypnothérapeute. Et alors la grande idée qui ressort de ce livre, c'est le corps comme solution. Ça vous parle ça, Anaïs de Moustier ?
Oui, 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 ça me parle beaucoup. Mais vraiment, ça, c'est parce que c'est mon expérience personnelle. C'est que j'ai constaté que moi, j'étais beaucoup plus verrouillée que ce que je pensais dans la tête. Et que donc, c'est toujours mon corps qui m'indique où aller, si ça va, si ça va pas. Et puis, voilà, c'est cette histoire de la voix qui guérit, de la voix qui libère. Le jeu, c'est quand même quelque chose... Enfin, je veux dire, le jeu au cinéma, le jeu de l'acteur, c'est quand même quelque chose de très physique. Et voilà, c'est toujours le corps, moi, qui me sauve. Et l'hypnose, c'est un... Moi, je pratique un truc qui s'appelle l'EMDR, et c'est une méthode assez géniale qui est une sorte d'hypnose.
Pour le stress post-traumatique, notamment, ça, on a fait ça sur des soldats traumatisés par la guerre. On s'est rendu compte qu'ils arrivaient à revivre d'anciens souvenirs et à être moins traumatisés à leur évocation.
Exactement. C'est vraiment une méthode qui est spécialisée pour voilà, les gens qui ont un accident, les gens qui vivent un incendie. Il y en a eu énormément là, après les attentats. Enfin, ça a été très développé, je crois, à Paris. Et c'est une méthode complètement passionnante pendant laquelle on replonge dans les moments traumatisants et qui nous permet de les classer dans notre cerveau au bon endroit. Et c'est vraiment fascinant.
Oui, c'est neurologique en fait, c'est les mouvements ouais. des yeux de droite à gauche.
Voilà, c'est une histoire de cerveau droit, cerveau gauche. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est très efficient et très passionnant.
Pour revenir à François Roustan, j'aimerais bien avoir votre avis, Anaïs de Moussier. Il dit que parler de conflit psychique, c'est une erreur. Il n'y a de conflit que relationnel. J'ai trouvé ça assez passionnant comme phrase, puisque ça voudrait dire que le problème n'est pas en soi, mais que c'est toujours face à quelqu'un d'autre.
Oui, je trouve ça intéressant. Face à quelqu'un d'autre, je sais pas, mais en tout cas, en relation à quelqu'un d'autre, par rapport à quelqu'un d'autre, oui, c'est pas faux. Et ça permet de moins s'apesantir sur soi et sur les méandres de nos problèmes. De dire qu'en fait, on se positionne par rapport au monde et par rapport aux autres, ouais, ça m'intéresse ça.
Et puis c'est vrai.
Par exemple, dans le jeu, moi, je fais tout le temps ça. Je suis très peu en train de construire un personnage, en train de penser à moi dans le film. Je suis beaucoup en écoute des autres, de mes partenaires et en réaction des partenaires.
C'est tout à votre honneur.
Hyper intéressant.
Est-ce que vous avez tendance à vous plaindre, Anaïs de Moustier ?
Oui, complètement.
Alors la fin de la plainte, pas pour tout de suite.
La fin de la plainte, non, pas pour tout de suite, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cet ouvrage, en me disant c'est peut-être la solution à tout. Je vais lire ce bouquin et ça sera terminé. Et ben en fait non, parce que je l'ai même pas lu en entier, mais en tout cas il y a des morceaux qui m'intéressent dans ce livre. Je sais pas si je lis un
ah oui, avec un grand plaisir.
Et ça, c'est par exemple quand je lis ça, j'arrête de me plaindre. Voilà, c'est pas mal. Champion de la plainte, les narcisses ferment les yeux à ce parcours fatal et tentent de justifier par une répétition inlassable la direction erronée qu'ils ont prise. Ils pensent soulager la souffrance qui s'exhale de leur recherche folle, alors qu'ils s'enferment dans ce dont ils prétendent sortir. Il n'y a plus d'issue pour eux que l'appel à la pitié ou à la compassion. Les plaintes, qui se prolongent au-delà de la décence d'un chagrin ou d'un deuil, se développent comme un cancer qui va tout dévorer parce qu'au lieu de se multiplier comme les cellules à la naissance, elles prolifèrent sur le vide de l'intérêt pour soi.
Waouh!
Voilà,
on peut plus parler.
Voilà,
après
mais ça. Après on se dit bon bah voilà, je vais arrêter de me plaindre.
Quoi faire de la solitude que je vivais dans cette maison? Quoi faire? Ça a commencé comme ça, comme une blague, peut-être écrire. Mais j'avais fait des livres avant. Souvent que j'abandonnais, j'oubliais même les titres, je sais même plus encore. Mais le vice-consul, j'ai jamais abandonné. J'y pense souvent. Pas dans le Weinstein, je n'y pense pas. Se trouver dans un trou. Au fond d'un trou. Dans une solitude quasi totale. Et découvrir que seule l'écriture vous sauvera.
Marguerite Duras, interviewée par Benoît Jacquot dans sa maison de Naufle, le château. Duras est l'auteur de vos deux citations consolatoires, Anaïs de Moustier. La première apparaît dans Écrire, publié chez Gallimard en 1993. La solitude, c'est ce sans quoi on ne fait rien, ce sans quoi on ne regarde plus rien. Je vous ai prévenu qu'on allait y revenir. La solitude, c'est aussi celle qui vous fait vous sentir mélancolique, Anaïs de Moustier, puisque vous ne l'êtes pas lorsque vous êtes avec d'autres gens. Oui. Mais pourtant, il faut la rechercher. Vous vous rendez compte en ayant choisi cette citation de Duras?
Exactement. Je lis vraiment la solitude à la mélancolie et à la fois, la solitude me fait peur. Je la fuis vraiment depuis toute petite. Parce que ça, vraiment, j'ai des souvenirs de ma mère me disant « Mais tu sais, il faut parfois être seule, c'est important d'être seule. » Donc j'ai toujours fui cette solitude et en même temps, j'ai bien conscience que c'est là qu'arrivent les grandes choses, je pense, et que c'est là que peuvent se créer les grandes choses aussi, si on est auteur, par exemple. Donc je vis de plus en plus souvent seule, en vieillissant.
Et vous dites ça d'un air contrit.
Ben non, mais parce que voilà, je me dis bon bah c'est une forme de sagesse que de savoir être seule.
D'être en bonne compagnie avec soi. Ouais, je veux dire, la plupart du temps, on a envie de se quitter, de pas se fréquenter.
Exactement.
Vous avez eu des moments comme ça de sérénité seule?
Oui, alors oui, ça, je ne sais pas si c'est vraiment seul, mais dans ces cas-là, c'est quand il y a quelque chose à contempler, quand il y a de la beauté quelque part. Quoi. Seul
la
avec
nature,
la nature,
par exemple.
Ouais, seul avec un. Alors moi, je suis très obsédée par les ciels. Donc je regarde tout le temps le ciel. Et dans Paris, ça, y a vraiment des ciels sublimes à plein de moments. Ou c'est encore plus beau en Normandie. Ou... Mais en fait, à Paris, il y a quand même des moments où la lumière est superbe. Et donc, je sais que le ciel, la lune, la nuit, c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup, quoi, qui me font vraiment du bien. Je me sens mais, vraiment super bien quand je vois un beau ciel.
Il y a une autre citation que vous avez choisie, Anaïs de Moustier. On la trouve dans L'Homme tremblant, conversation entre Marguerite Duras et Elia Kazan, dans un numéro des Cahiers du cinéma de décembre 1980, si vous voulez tout savoir. C'est « Il reste toujours quelque chose en soi, en vous, que la société n'a pas atteint, d'inviolable, d'impénétrable et de décisif. » C'est en fait la seule consolation éternelle. On ne peut pas violer ou détruire l'intégralité d'un être.
Ouais, ouais, ça, j'adore. J'adore cette phrase parce que c'est aussi comme si la solitude, justement, c'était notre trésor et comme si c'était une chose qu'il fallait à la fois cultiver. Ça parle de la singularité des gens, des êtres et leur voilà le fait qu'on est unique et que cette chose-là est belle et qu'il faut la choyer.
Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'atteignable, Anaïs de Moustier ?
Ah oui, ouais, beaucoup trop même. Ouais. Ah, moi, je suis vraiment une sorte de livre ouvert. Je veux dire, on voit tout de suite ce que je pense. Je peux créer des amitiés très rapidement avec des gens que je connais peu, me confier très vite. Ouais, je suis vraiment pas une forteresse. Et en même temps, j'ai des amis très proches qui disent « Mais non, tu es opaque, donc je comprends rien. » Franchement, je sais pas.
Il est temps de s'agiter sur vos baumes musicaux.
Na rabuda que manda no requebrar. A criola que boia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Que manda não se quebrar. A crioula que fui a te ama, te beija pra viajar.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Anaïs de Moustier qui vient de nous faire entendre le morceau de 2018 Kuzola de la jeune chanteuse angolaise Pongo. Kuzola en Kimbundu, comme vous le savez tous, un dialecte angolais, ça signifie amour.
Ah non, je savais pas, génial. Ouais, mais c'est fou parce que j'y pensais en écoutant cette chanson. En fait, elle me suit depuis le tournage de Alice et le maire de Nicolas Pariser. C'est un film qu'on a tourné à Lyon. Et je me rappelle l'avoir écouté tous les matins avec la régisseuse qui m'emmenait sur le plateau. Et c'était en octobre 2018. Donc, c'est une chanson qui tient dans ma playlist depuis un an et demi et que je ne quitte pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle me fait vraiment beaucoup de bien.
Ça, c'est le titre du genre qui requinque, vous dites. Je vous cite hein, Anaïs de Moustier, du genre qui requinque. Parce que le second qu'on va écouter tout à l'heure, il est du genre dépressif.
C'est-à-dire que quand on est mélancolique, je vous ai demandé des morceaux, genre des remèdes. Bon, bah. Soit on se dit, bon, bah, je vais essayer de sortir de ma mélancolie, soit on se dit, bon, bah, je vais y aller à fond. Et parfois même, c'est en allant dans les tréfonds de la tristesse, avec un morceau bien cafard, que c'est en touchant le fond qu'on remonte, quoi.
Mais alors, Pongo, dans cette chanson, c'est pourtant une lamentation de femme quittée, mais c'est le rythme qui
entraîne. Ah, c'est vrai,
c'est ça ? Ouais.
Ah, je savais pas. Incroyable.
Et alors, il y a quelque chose d'autre,
magnifique.
Ça peut être votre jumelle, Anaïs de Moustier, parce qu'elle dit que la libération, dans une interview, la libération, ça passe par le corps.
Génial! Génial. Non, mais de toute façon, moi, je trouve que les plus belles chansons, c'est les chansons, c'est d'ailleurs pour ça, j'imagine que je l'adore, c'est les chansons qui ont une rythmique élevée, enfin, qui sont dansantes et qui pourtant contiennent de la mélancolie. Je me souviens de Sabali aussi, de Amadou et Mariam.
Ah oui.
J'adorais cette chanson. Parce que ça, on peut danser dessus, mais en fait, il y a une tristesse qui surnage. C'est trop beau.
J'ai lu beaucoup de paroles de chansons de Charles Trenet. En fait, elles sont très souvent tragique, alors que l'air est très enjoué,
l'air
enlevé.
Est plutôt léger. Ouais.
On y va, on va dans la dépression.
Allons-y,
Anaïs de Moustier.
J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissait comme source claire, Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier, le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé, hélas.
1968, Mon enfance de Barbara sur l'album Soleil Noir, dont le titre est inspiré du poème El Desdichado de Gérard de Nerval, dans lequel il est question du soleil noir, de la mélancolie. C'est une chanson très triste, Anaïs de Moustier.
Mais oui. Non mais moi, Barbara, c'est vraiment une femme qui a changé ma vie. Je crois, enfin, en tout cas, elle m'accompagne depuis le film d'Anneke que j'ai tourné quand j'avais 14 ans.
Ah, c'est des rencontres sur des films à chaque fois, les
mecs. Oui, c'est vrai. Et là, en fait, l'ingénieur du son du film, comme on tournait à Vienne, m'avait dit, tu vas voir, je vais te faire écouter une chanson qui parle de là où on est. Et il m'a fait écouter Vienne de Barbara, qui est une chanson que j'écoute régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et cette chanson, Mon enfance, il y a vraiment des phrases sublimes comme « Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps joli de son enfance » ou « Du temps béni de son enfance », je ne sais plus. Et voilà, c'est une grande tristesse, mais qu'est-ce que c'est beau. Et Barbara, à chaque fois, elle convoque soit les grandes histoires d'amour, soit les grands regrets. Et puis il y a des chansons qui sont comme des histoires et qui souvent ont des fins tragiques, que ce soit, je pense à Drouot, par exemple. Et... Non, Vienne, c'est l'inverse. Vienne, ça se termine bien. C'est magnifique, Vienne. Elle dit, finalement, elle lui demande de venir à Vienne. Donc oui, Barbara, vraiment très souvent, chez moi, je l'écoute énormément. Et c'est d'un grand réconfort, je trouve, de sentir que des gens créent des choses si belles sur ce qu'on ressent. C'est vraiment très basique.
Barbara, c'était une petite fille juive sous l'occupation et elle s'est cachée pendant quelques temps dans le village de Saint-Marcelin dans l'Isère. Et elle est retournée des années après dans ce village, c'est ce qu'elle raconte dans la chanson « Mon enfance ». Et c'est vrai, vous avez cité ça de tête, Anaïs de Moustier, bravo, parce que les paroles ensuite, c'est « Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent ». Ensuite, elle parle de sa mère. Où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre.
Et moi, je suis venue ici. Ouais.
Oui, et moi, je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Et je suis seule avec ma détresse.
Gros cafard, ouais. Ouais. Maxi cafard. Bon, bah voilà, c'est tout.
Non, après, il y a mon passé me crucifie. Elle n'aura jamais mon enfant.
Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère.
Pas du tout. Anaïs de Moustier, est-ce que vous avez un tempérament nostalgique?
Je ne crois pas, justement. Alors, parce que j'ai fait tout un petit travail avant de venir, je me dis, en fait, mélancolie, nostalgie, je trouve que c'est difficile de distinguer les deux. Et en fait, je crois que non, je crois que je suis vraiment mélancolique, plus au sens de la plainte, du fait de se jeter dans la tristesse, mais pas à me dire, oh, c'était si génial quand j'avais 12 ans et que j'étais avec mes frères et sœurs. Enfin, non, pas du tout. J'aime avancer, ça me fait plaisir de vieillir, de grandir, de... Voilà.
Extrait des 12 variations en do majeur pour piano de Mozart sur le morceau populaire « À vous dirai-je maman » interprété ici par Cyril Guillotin. Pourquoi êtes-vous nombreux à ne pas me demander ? Eh bien parce que cela introduit joliment votre tableau consolatoire Anaïs de Moustier, mère et fille, peint par Egon Schiele en 1913. Et je vous laisse nous décrire ce tableau qui a quelque chose d'un peu étrange.
Oui, il a quelque chose de même très, très dramatique, en fait, ce tableau.
Moi, je dirais dérangeant, mais...
Dérangeant, vous diriez, ah oui.
Dites-nous.
C'est une jeune femme qu'on voit de dos, qui a des cheveux longs, qui sont coiffés par une jolie tresse. Elle est nue, et elle est dans les bras donc de sa mère, qui, elle, est habillée, et qui a une robe qui est très rouge. Et le corps, voilà, la peau blanchâtre de cette jeune femme sur cette, dans les bras de sa mère, qui elle a un corps très rouge avec sa robe rouge, voilà, ça crée une chose très belle.
Et quand on le voit, on peut le voir sur Internet par exemple, il y a des taches rouges sur les fesses de la fille. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une petite fille, c'est une jeune fille, nue dans les bras de sa mère.
Oui, c'est vrai. C'est une jeune femme, presque. Une jeune fille. Moi, je sais pas, moi, ce tableau m'a toujours bouleversée. C'est vrai que je me suis jamais trop expliqué pourquoi.
Ah, il a quelque chose de puissant.
Mais il a quelque chose de puissant, comme d'une sorte de transmission de la mère à la fille, de qu'est-ce que c'est être une femme. Elle la console, et en même temps, vous avez raison, c'est plus une enfant, elle a plus forcément l'âge d'être consolée. Les taches rouges, ça peut évoquer les règles, la sexualité. C'est comme une sorte de deuil qu'on a à faire avec l'enfance, la vraie petite enfance. Je sais pas, ça me raconte ça. Et puis comme une sorte de chose qui ne se partage qu'entre femmes, qui ne se comprend, qui ne s'éprouve qu'entre les femmes.
Et elle fusionne par les cheveux, c'est assez joli.
Oui, c'est vraiment très tendre et très, très physique, très sensuel, quoi.
Ouais. Vous venez de dire le mot deuil, Anaïs de Moustier. Il y a pas longtemps, on recevait la philosophe Claire Marin qui avait choisi le journal de deuil de Roland Barthes. Vous avez choisi Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes.
Ah ouais, c'est drôle. J'adore Claire Marin, celle qui a écrit Rupture.
Ouais, formidable ouvrage.
Magnifique ouvrage. Oui, Fragment d'un discours amoureux, c'est mon livre de chevet que j'ai toujours gardé. Enfin voilà, quand on déménage, on perd des livres. Celui-là, je sais qu'il est toujours chez moi. Et c'est un livre qui me fait beaucoup de bien parce que quand même, je trouve que la mélancolie, pour moi en tout cas, est très souvent reliée aux histoires d'amour, au manque. Là, pour le coup, c'est mon endroit de nostalgie. C'est les histoires passées, les deuils amoureux, tout ça. Et les fragments, je trouve, c'est un bouquin qui fait du bien parce qu'il ramène à la légèreté de l'état amoureux. Il nous fait prendre de la distance avec les excès qu'on peut avoir quand on est amoureux. À la fois, par exemple, le chapitre sur l'attente, quand on attend l'autre et qu'on est perdu dans l'attente. Enfin voilà, c'est un livre qui, moi, m'accompagne.
Vous picorez dedans assez régulièrement ?
Oui, en plus, c'est vraiment un bouquin qu'on peut lire de façon fragmentée. Enfin voilà, on peut regarder un peu, on peut lire des bouts puis s'arrêter. Ouais, ça me donne envie de m'y replonger d'ailleurs.
On termine par votre bonus, Anaïs de Moustier. C'est un lieu qui vous fait instantanément du bien en cas de spleen. Taloir.
Oui, Taloir. C'est un village au bord du lac d'Annecy. J'ai toujours un peu de mal à en parler parce que c'est un endroit que j'aime garder pour moi. Donc là,
alors
c'est
peut-être ne donnez pas. Oui.
Mais bon, voilà.
J'allais dire ne donnez pas l'adresse exacte, mais si c'est un petit village.
Ouais, c'est un village vraiment très beau. Mais bon, de toute manière, voilà, c'est pour tout le monde. Mais puis je ne sais pas si ça y fera cet effet-là à tout le monde. Mais il y a une poésie dans cet endroit. Il y a de la montagne et de l'eau. Il y a quelque chose qui fait penser un peu à Miyazaki. C'est un endroit très calme et dans lequel je me sens vraiment très petite face à la nature. Et ça, moi, je trouve toujours que ça fait du bien et que ça redonne, enfin, ça remet toutes les idées en place d'être face à la nature et de sentir qu'elle nous domine, en fait, complètement.
Et ça ne vous fait pas peur ?
Non, pas du tout, au contraire. J'ai l'impression d'y puiser de la force, de l'énergie et puis un calme qu'on. Enfin, on est vraiment très déconnecté de nos sensations physiques à Paris, je trouve. On est quand même vraiment comme des animaux un peu bizarrement agencés, là, au milieu des voitures. Et quand je suis là-bas, j'ai l'impression de me retrouver vraiment.
Je suis sûre que ça fait plaisir à tous les auditeurs qui nous écoutent de toutes les autres villes de France.
Ah ouais, et du monde, d'ailleurs. Quoi, profitez.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci à vous, j'étais très contente.
Moi aussi. On pourra vous voir dès le 12 février dans le film La fille au bracelet de Stéphane Demoustier et avec un peu de patience dans le prochain film d'Antonin Perichatko, la pièce rapportée aux côtés de Philippe Catherine et Josiane Balasco, ainsi que dans le prochain film de Jérôme Bonnel. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Et ce sera éparpillé, évidemment, sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'il faut que je dise à chaque fois que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne le dis jamais. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme est aussi résolue qu'une courgette à sens unique. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10. Dans un instant, vous retrouverez On va déguster avec François-Régis Gaudry.